Avec 4 cases, un gag et pas de dialogue, le premier manga de l'histoire a 130 ans, et clairement ça fait pas rêver. Comment est-on passé d'un petit dessin de presse à des succès planétaires? C'est ce qu'on va voir en vous racontant l'histoire de 14 hommes et femmes dont la vie a révolutionné le manga. Akira Toriyama. Dragon Ball, bientôt 40 ans, toujours dans la pop culture, deuxième manga le plus vendu de l'histoire, alors que ça fait 28 ans qu'il est terminé. C'est le père du shonen moderne, celui qui a démocratisé la bande dessinée japonaise en Occident. Sa diffusion française en 1988 explose tous les records, avant d'être battu quelques années plus tard par sa suite. Comme le disait un commercial de l'époque, il suffirait de marquer Dragon Ball sur une patate et on la vendrait. Mais alors, pourquoi lui plutôt qu'un autre? Après tout, on a eu des dizaines d'œuvres cultes fin 80, début 90. Les Chevaliers du Zodiac, le survivant, Olive et Tom, et surtout les séries de Rumiko Takahashi. Juliette Je T'aime, L'Amour, Ranma 1/2, qui ont ramené des valeurs entre guillemets shoujo dans le shonen, comme la romance. Dragon Ball les a pourtant tous écrasés. Il a transformé le manga pour parler à un public mondial. Son univers mélange pop culture occidentale et littérature classique asiatique, fantastique ou science-fiction. Mais en quoi est-ce bien différent des Chevaliers du Zodiac ou de Ken le survivant? Tout simplement, l'approche n'est pas la même. Dragon Ball est loufoque, coloré, avec beaucoup d'humour dans ses débuts. Logique, Toriyama a commencé dans la comédie, son premier succès étant Dr. Slump avec 35 millions de tirages. Il y passait d'un combat serious business à une blague potache sans que ça choque grand monde, une formule qui parle autant aux ados qu'aux enfants. Autre innovation dans Dragon Ball, la gestion du temps. Plusieurs années peuvent s'écouler entre chaque événement, parfait pour faire gagner en maturité à ses personnages. Une des spécialités de l'auteur qui est quand même connue pour des archétypes très populaires, genre le héros naïf avec un appétit démesuré, le vieux maître pervers, la nana garçon manqué mordu de technologie, le méchant qui devient un rival. Mais là où Toriyama se distingue de ses contemporains, c'est sur son style. Utilisation originale des lignes de vitesse, représentation efficace de la magie, déformation des corps sous le choc et mise en scène de l'action. Un découpage en séquence presque animé, rendant la chorégraphie des combats hyper claire à suivre. Ça servira littéralement de modèle au mangaka des années 2000. Et très franchement, pour l'avoir relu récemment, son trait n'a pas pris une ride. Certes, son style peut sembler un peu vieillot, avec des inspirations cinéma américain Jackie Chan, ou encore son amour pour les véhicules de l'époque. Mais dans l'exécution, c'est vraiment très bien réalisé. Et il y a trois œuvres qui l'ont particulièrement influencé pour se trouver artistiquement. Les 100 Dalmatiens de Disney, Conan de Hayao Miyazaki et un manga Astro Boy, modeste œuvre culte de Osamu Tezuka. Le manga moderne aurait pu ne jamais exister. Au début du siècle dernier, il se limitait surtout aux comic strips, des adaptations d'œuvres étrangères changeant les personnages et les gags pour le public japonais. Les plus populaires, la famille Illico et Adamson. Il évolue dans les années 30 pour le pire, détourné en instrument de guerre, un vrai matériel de propagande. Comme les comics aux États-Unis, c'est dans ce contexte que naissent les ancêtres de vos shonen favoris, les Neketsu. Une grande esbrouffe pour encourager les gosses à devenir soldats, stoppée net par la défaite de 1945. Les Américains envahissent le Japon et imposent leurs valeurs. Fini les samouraïs, les arts martiaux et soldats impériaux. On parle baseball, école et famille. La majorité des publications sont contrôlées et les auteurs sont choisis avec soin. Machiko Asegawa obtient la bénédiction de l'oncle Sam dès 1946. Elle présente une histoire de mère au foyer cherchant sa place dans le monde d'après-guerre, Sazae-san. C'est un énorme carton au Japon. Très simplement, l'adaptation animée la plus longue de l'histoire, toujours en cours de diffusion malgré un départ en octobre 1969. Sazae-san a modernisé le comic strip, inspirant des dizaines d'auteurs actuels, mais elle reste assez inconnue chez nous. Pour conquérir le monde, le manga avait besoin de retrouver sa liberté, et une seule solution, la piraterie. Les auteurs se livrent à la contrebande de livres rouges, des histoires imprimées sans contrôle sur un papier recyclé rougeâtre vendu à la sauvette. Un homme y verra là un potentiel monstrueux, Shijima Sakai, disciple d'un des premiers mangaka Rakuten Kitazawa. Il a tout perdu sauf son ambition, il passe des mois à faire le tour des bases américaines, y vend des portraits, économise le moindre yen dans un seul but, fonder sa maison d'édition. C'est en cherchant des jeunes talents à publier qu'il fait la rencontre d'un gamin de 17 ans, Osamu Tezuka. L'ado est un vrai génie, et il faut dire qu'il a été à bonne école. Il a lu tous les mangas d'avant-guerre et a vu tous les films de Walt Disney. Il veut faire de l'animation, mais ça coûte trop cher, donc il commence par le dessin. Ainsi sortira La Nouvelle Île au Trésor, coécrit avec Sakai et publié le 1er avril 1947. Très loin d'être une blague, c'est pas moins de 400 000 ventes en quelques mois. Il enchaîne en 1950 avec Le Roi Léo, une série en plusieurs tomes, une vraie histoire à suivre, et ça y est, le manga moderne est né. Suivi de près par son premier succès mondial, mondial, Astro Boy, sorti en 1952 avec 100 millions de ventes. Le style d'Osamu Tezuka devient la référence à suivre. Décors disproportionnés, peu de détails en fond, tracés simples, grands yeux expressifs, un héritage de Bambi qui était juste son Disney préféré. Et au passage, il en profite pour poser les bases du shoujo avec Princesse Saphir, et comme il lui restait un peu de temps avant sa pause du midi, il révolutionne simplement l'animation japonaise, démocratisant des techniques économiques inspirées par les studios américains. Des plans fixes, des poses théâtrales, des répétitions d'animation, de quoi produire plus d'épisodes pour moins cher. S'ensuit une expansion massive du média et les toutes premières exportations d'Astro Boy en 1963, puis du Roi Léo en 66. Le manga de Tezuka qui a inspiré le Roi Lion de Disney. Sans lui, pas de Mufasa. Le japonais qui s'inspire du Bambi américain qui finit par devenir la référence du géant qu'il a tant observé plus jeune. Quelle ironie. Et si vous m'entendez ici, là, sur cette chaîne, c'est bien grâce à Tezuka et à la fascination que j'ai eue pour ces mangas plus jeunes. Si vous voulez continuer à m'entendre parler de notre passion commune, n'hésitez pas à tourner votre regard vers le bouton abonnement, histoire de ne rien rater à l'avenir. Hirohiko Araki. Dans les années 90, les shonen deviennent l'ennemi des intellectuels occidentaux. Un divertissement stupide. Les politiques et les mères de famille recrachent constamment le même discours.
Les mangas, c'est quand même ça. C'est trois mots de vocabulaire, c'est vous, vous, vous.
Et ben Araki, il vient pour casser cette image, en étant un des premiers auteurs de bande dessinée au monde à être exposé au Louvre en 2009. Il signe même une couverture du prestigieux journal scientifique Cell et même un partenariat avec la marque de luxe Gucci pour ses 90 ans. Ses références artistiques sont très particulières et parlent aux plus élitistes. La sculpture de Michel-Ange, la peinture de Paul Gauguin, la musique, comme ça c'est bien connu, le cinéma de Ridley Scott et même Burn Hogarth. Un dessinateur de bande dessinée particulièrement reconnu pour ses travaux sur l'anatomie et surtout pour son travail sur la BD Tarzan. Mais surtout son attirance pour la mode, la haute couture, ses mythiques Jojo poses viennent littéralement de ses magazines. Et même côté manga, Araki ne fait rien comme tout le monde. Osamu Tezuka ? Mouais. Je préfère largement des auteurs des années 60, comme Mitsuteru Yokoyama, un des pères des mangas de Mecha et de Magical Girl, c'est vraiment un grand écart. Il appréciait aussi énormément Ashita no Joe, dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Mais Hirohiko Araki pioche aussi dans son époque, impossible de ne pas penser à Hokuto no Ken en voyant les premières planches de Jojo Bizarre Adventure. Un énorme succès au Japon avec 120 millions de tomes, désigné en 2007 comme le deuxième meilleur manga de tous les temps par les japonais, devant Dragon Ball. Jojo Bizarre Adventure a eu beaucoup de mal à arriver chez nous, longtemps réservé à un cercle de fans hardcore. L'adaptation animée de 2012 va lui redonner une carrière, la presse le décrit alors comme un renouveau, attirant des lecteurs lassés par les shonen classiques. Sauf que je vous rappelle que le manga est sorti en 1986, donc ce n'est pas exagéré de dire que Jojo a eu 37 ans d'avance sur son temps. Mais la vraie révolution d'Hirohiko Araki, ce n'est pas dans son style graphique, c'est surtout sa structure narrative. Il s'essaye à tous les genres d'histoires connu, de l'aventure à l'horreur, change souvent de héros, ne se gêne pas pour les tuer, ça crée de l'enjeu, jusqu'au dernier chapitre, on tremble, on a peur. Mais ce qui séduit le public occidental, c'est sa façon d'écrire les combats, pensés comme une partie d'échecs à la manière des romans de Sherlock Holmes. Ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui fait le meilleur usage de ses compétences, particulièrement avec les stands. Des pouvoirs propres à chaque personnage, reflet de leur personnalité qu'ils doivent utiliser intelligemment pour gagner. Et ça infuse dans la culture manga, influençant directement ou indirectement les auteurs de shonen. C'est peut-être grâce à ça qu'on a des combats un peu plus poussés sur la réflexion, notamment dans Naruto ou d'autres mangas de l'époque. Pareil pour tous les mangas de Clamp, le manga Yu-Gi-Oh! Ou encore Hunter x Hunter. Leurs auteurs ont assuré être des fans de Jojo. Regardez le premier épisode d'Hunter x Hunter. Salut le masque de pierre! Et cette invocation, c'est un hommage, sans oublier les fameuses Jojo poses. 37 ans après, l'œuvre d'Hirohiko Araki se porte toujours aussi bien, avec une 9e partie qui vient de commencer, Jojo Land. Go Nagai. Les mangas, c'est pour les enfants. Ça tient en colère que je dise ça, et pourtant, ce n'était pas si faux dans les années 50. Osamu Tezuka les avait calibrés pour un public enfantin, dessin tout mignon, valeurs positives, compatibles avec les censeurs américains. Ce que, paradoxalement, l'Occident déteste. Les enfants lisent Batman, qui est bien plus sombre et ambigu moralement. Une révolution était nécessaire, et elle vient de mangaka excédés des utopies d'Osamu Tezuka. Ils veulent décrire le monde réel, celui de l'après-guerre, des histoires plus longues, des intrigues soignées et des thématiques plus adultes. La différence est aussi stylistique. Les cadrages s'inspirent plus du cinéma, avec des angles de vue variés, un trait plus mature, n'hésitant pas à dessiner misère, violence et sexualité. Beaucoup ont fait partie de ce mouvement. Kazuo Umezu, père du manga d'horreur, jouant sur les corps déformés, ou encore les papas de Golgo 13, troisième manga le plus vendu de l'histoire. Gen d'Hiroshima est un des premiers du genre à percer aux USA en 78, un récit autobiographique sur les bombardements atomiques, suivi par Kamui Den, Lone Wolf and Cub et encore plein d'autres. On y retrouve aussi les femmes du collectif Year 24, dont Moto Hagio, considérée comme la déesse du manga, pionnière du boy love, de la science-fiction nippone et des découpages qui débordent du cadre. Même Tezuka finira par les rejoindre, travaillant son style pour aboutir à son plus grand succès, Blackjack, 176 millions de ventes. Go Nagai hérite de l'esprit de ce mouvement à travers les enseignements de son maître Shotaro Ishinomori, le père des super-héros japonais, les Kamen Rider, inspiration première des Power Rangers. Go Nagai est un bourreau de travail, jusqu'à 20 heures par jour, sans week-end ni vacances, pour sortir 500 planches clean par mois. Il a écrit plus de 360 mangas en ayant touché à littéralement tous les genres. Sa carrière a pourtant mal commencé, sa mère étant allée dans toutes les maisons d'édition pour leur demander de ne surtout pas embaucher son fils parce que mangaka c'est nul. Merci maman. Il s'accroche et réalise son rêve avec L'école impudique en 68, un pari fou, parler de sexualité aux adolescents japonais dans une comédie déjantée. Ah oui, et c'est une des premières séries du Weekly Shonen Jump. C'était totalement inédit à l'époque, ce qui déclenche une plainte des associations de parents d'élèves, inquiètes de voir la jeunesse devenir accro à la luxure. Ce qui énerve Go Nagai, qui leur répondra avec Abashiri Ika en 69. Une femme forte, Yakuza, qui massacre des hommes de façon ultra violente en étant à moitié nue. Bref, l'exact inverse de toutes les valeurs de l'époque. Ça ne plaît pas du tout à ses collègues mangaka qui lui mettent d'ailleurs un gros coup de pression. On le juge indécent, trop violent, alors il prend sur lui et enchaîne en 1972 avec Devilman. Personne n'avait jamais osé aller aussi loin. Il met en scène la cruauté, la psychose, la haine, tout ce que l'humanité peut faire de pire. Une énorme claque autant visuel que scénaristique, qui marque profondément le médium avec 50 millions de ventes. Le manga a été réadapté en animé récemment par Netflix et c'est un banger. Devilman Crybaby, vraiment je l'aime d'amour, je l'ai vu pas moins de 19 fois et c'est même pas une blague. Mais Go Nagai, devenir le boss du game en flexant sur tout le monde, ça ne lui suffit pas. Il continue avec Violence Jack en 73, une suite encore plus dark à Devilman, et Cutie Honey, une réinvention des Magical Girls sous Eiichi. Le générique est d'ailleurs incroyable. Et à la même époque, il travaille sur une autre œuvre, Mazinger Z, un des piliers du mecha, le premier qui met en scène des pilotes à l'intérieur des robots. Ça ne vous dit rien, sa suite vous parlera sans doute plus, Goldorak. Go Nagai reste assez méconnu chez nous, malgré son rôle clé dans la popularisation du manga en Occident. Aux États-Unis, bon, il a fait un flop, mais comme beaucoup d'animés de l'époque, bloqués par des conflits entre producteurs de télévision. Conflits dont même Dragon Ball a fait les frais par le passé, mais un film va tout changer, Akira. Adapté d'un manga de Katsuhiro Otomo en 82, il a révolutionné la grammaire du manga. Décor de fou furieux, corps dynamique, visage expressif, utilisation innovante des lignes de vitesse, Otomo partage les mêmes inspirations que Go Nagai, son sensei Shotaro Ishinomori et surtout Mobius.
Pas mal non, c'est français.
Un mastodonte de la bande dessinée. Plus que ça, les deux abordent les mêmes thématiques. Chômage, secte, drogue, délinquance, inégalité, usage de l'arme atomique, préoccupation écologique, faisant comprendre au monde entier que le manga, maintenant, c'est aussi fait pour les grands. Le Big Three. À la fin de Dragon Ball Z, toute une génération de mangaka n'avait plus qu'un seul but, devenir le nouveau Akira Toriyama. Des centaines s'y sont essayés, et seuls 3 ont vraiment réussi. Le dernier a vraiment décollé en 2001, c'est le papa de Bleach, Tite Kubo. S'inspirant de Senseiya et de Yu Yu Hakusho, des héros aux allures de délinquants, dans un monde de morts, des capitaines à affronter les uns après les autres, sauf qu'il parle davantage du quotidien et des difficultés liées à l'adolescence. L'influence de Dragon Ball se ressent dans son style, des dessins épurés, des chara-designs efficaces, des angles de vue clairs avec une originalité, un découpage magistral de ses planches. La formule plaît avec 130 millions de copies vendues. Bon, c'est juste 4 fois moins qu'Ichiro Oda avec ses 500 millions. Lui a été marqué par Olivier Tom, Vic le Viking et bah Dragon Ball, oui forcément, on le ressent même dans ses premières œuvres. Mais son travail comme assistant de Nobuhiro Watsuki, auteur de Kenshin le Vagabond, va faire évoluer son style. Plus détaillé, plus généreux, jusqu'à partir dans l'excès total, des cases pleines à craquer donnant parfois l'impression de lire Où est Charlie. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça transforme sa narration, son univers vit en arrière-plan, indispensable pour un obsédé du world-building comme Oda. Il développe ainsi des dizaines d'histoires parallèles et beaucoup de foreshadowing. On arrive au plus influent des trois, Masashi Kishimoto, papa de Naruto, qui a déclaré « Dans ma vie de dessinateur, j'ai aussi eu un père et une mère. Ma mère, c'était Akira Toriyama. Mon père, Katsuhiro Otomo. » Le créateur d'Akira, hein, pour ceux qui suivaient pas. Et ça, bah, ça se ressent dans cette thématique. L'impact de la guerre sur les civils, la destruction de villages à grands coups de chakra atomique, et pour l'inspiration de Toriyama, bah regardez bien Naruto quoi. La tenue orange, la nourriture, l'aspect un peu bébête, on pourrait vous citer des dizaines de points communs avec Sangoku. Il s'est aussi beaucoup inspiré de Yoshihiro Togashi, par exemple Sasuke, c'est EA de Yu Yu Hakusho. Les pouvoirs de son œil et le feu noir viennent littéralement de là, il l'a dit en interview. Même s'il enregistre deux fois moins de ventes que One Piece, il a marqué les mangaka actuels. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia, tous rendent hommage à son génie, son approche artistique et son écriture. Et ce fait nous pose une question. Les mangaka d'aujourd'hui marqueront-ils l'histoire ? C'est très difficile à prédire, ça demande beaucoup de recul. Parmi les auteurs de la fin des années 2000, certains ont bien réussi, comme Tsugumi Oba et Takeshi Obata, et d'autres se sont effondrés. Toriko a été un énorme succès à sa sortie, faisant même des crossovers avec One Piece et Dragon Ball Z, et aujourd'hui, tout le monde s'en fout, seulement 25 millions de copies vendues. Mais chez Manga Trash, on a des petits pronostics. Déjà le mode facile, Hajime Isayama, l'attaque des titans a déjà gagné son statut d'œuvre culte, 110 millions de tirages, bien parti pour dépasser Bleach et Jojo Bizarre Adventure. Son manga est littéralement un modèle à atteindre pour beaucoup d'auteurs. À côté de ça, on a des gars ambitieux comme Makoto Yukimura qui écrit Vinland Saga en réinventant le manga historique. D'autres parleraient aussi de Yusuke Murata, le dessinateur de One Punch Man, High Shield 21, un mec qui a énormément de talent et que beaucoup de mangaka tentent de recopier. Mais s'il y en a un sur lequel je suis prêt à parier un salaire, c'est Tatsuki Fujimoto, le papa de l'incontournable Chainsaw Man. Il pioche ses inspirations partout. Super-héros, shonen, cinéma, horreur psychologique, shoujo, etc. Ça donne à ses œuvres une narration hyper innovante, jouant avec nos attentes pour les dépasser. C'est impossible de prédire ce que va nous réserver la suite de Chainsaw Man. Un conseil, lisez le manga. L'anime est excellent, il rend parfaitement hommage à l'amour pour le cinéma qu'a Tatsuki Fujimoto, mais franchement, vous le regardez et vous lisez le manga, faites les deux. On pourrait encore vous citer beaucoup d'auteurs, plusieurs noms vous viennent d'ailleurs sûrement en tête. Et dites-vous que là on a parlé que du format papier, d'autres génies ne s'étant exprimés que par l'animation comme Hayao Miyazaki, Horiyuki Imaishi ou encore Shinichiro Watanabe. Peut-être un sujet pour une prochaine vidéo. L'industrie du manga est très vaste et les grands noms qui l'ont traversé sont encore plus nombreux que tous ceux qu'on vient de citer ici. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec les noms qu'on a donnés ou peut-être juste que vous n'aimez pas leur manga. Mais dites-vous que même si vous ne méprisez ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, il a très sûrement influencé votre manga préféré qui vous attend dans votre bibliothèque.